Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 9 novembre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse, au cours de cette émission, le journal, les sports, le journal de la semaine en France. Et on parlera à Sophie Galaise, la Managing Director du Melbourne Symphony Orchestra, avec la reprise des concerts à Melbourne. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 9 novembre, le Victoria a détecté plus de 1000 cas de coronavirus et 10 décès ont été enregistrés ce mardi. Le gouvernement du Queensland a déclaré que les masques ne seraient plus nécessaires lorsque l'État aura atteint son objectif de vaccination à dose unique de 80%. Le Victoria a détecté plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus et 10 décès dus au COVID-19 depuis hier. Le département de la santé a signalé 1069 nouvelles infections, ce qui signifie que l'État compte 15 000 cas actifs en ce moment. Plus tard cette semaine, le Victoria devrait atteindre un total de 100 000 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que les travailleurs de la santé étaient toujours sous pression, mais que l'État progresser bien dans l'ensemble.
We've got to keep test numbers up, and you know, so far, so good. Things are going along okay, but I don't want to downplay the amount of pressure that's in the system.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 222 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures et 4 autres décès. Près de 94% de la population âgée de plus de 16 ans a reçu une dose d'un vaccin contre le coronavirus et près de 90% de l'État est entièrement vacciné contre le COVID-19. Le Victoria déploie des tests rapides antigéniques gratuits pour les étudiants non vaccinés s'ils sont considérés comme les principaux contacts d'un cas positif. Ces tests leur permettront de reprendre des classes en face à face après 7 jours d'isolement plutôt que de 14 jours. Les tests seront déployés d'abord dans une vingtaine d'écoles touchées par l'épidémie et ensuite dans toutes les écoles. Les élèves auront toujours besoin d'un test PCR négatif le 6e jour et d'un test rapide antigénique négatif du 8e au 14e jour. Cela survient alors que le Doherty Institute recommande à tous les États de mettre en œuvre une stratégie similaire en adoptant une approche de, je cite, « test to stay » plutôt qu'une quarantaine complète de 14 jours. Le ministre de l'Éducation dans le Victoria, James Merlineau, a déclaré qu'il avait espéré que des vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans seraient disponibles avant Noël.
Prime Minister indicated at National Cabinet on Friday that is not going to be the case. I would hate to see the federal government fail to secure vaccines to 5 to 11 year olds, fail to secure vaccines for a second time. That's what we don't want. In the United States, vaccines are already available for children and they're being rolled out. And that means kids are safer at school, they're safer in the community, they're safer at home. We want that same opportunity for Australians as early as possible.
Le gouvernement de Les City a annoncé que ses restrictions sur le coronavirus seront assouplies à partir de vendredi prochain et les masques ne seront plus nécessaires dans la plupart des espaces. Les changements ont été avancés de 15 jours en raison du taux de vaccination élevé du territoire qui a dépassé les 95%. Le département de la santé a déclaré que le port du masque s'appliquerait toujours dans les environnements à haut risque, à l'aéroport de Canberra, dans les transports publics et lorsque la distanciation physique n'est pas possible à l'intérieur. À partir de vendredi prochain, le nombre de rassemblements informels en plein air sera également illimité, tandis que la danse sera autorisée dans les boîtes de nuit. Le gouvernement du Queensland a déclaré que les masques ne seraient plus nécessaires lorsque la population de l'État aura atteint son objectif de vaccination à dose unique de 80%. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré qu'arrivé à ce stade, les masques pourront être enlevés dans les écoles, les cafés, les pubs, les clubs, chez les coiffeurs et sur les lieux de travail. Le gouvernement du Victoria lance ce mardi une enquête en ligne pour les habitants du Victoria afin de partager leur expérience en matière de racisme et leurs idées pour s'attaquer aux problèmes. L'enquête est disponible jusqu'au 8 décembre prochain et informera le comité de stratégie antiraciste de l'État qui vise à créer une société plus sûre et plus inclusive pour les peuples des Premières Nations et les communautés multiculturelles et multiconfessionnelles. La ministre des Affaires multiculturelles, Ross Spence, a déclaré sur SBS News que la stratégie antiraciste serait lancée au milieu de l'année prochaine pour empêcher de manière proactive le racisme dans l'État.
The strategy is going to be based on the advice of the Anti-Racism Task Force, which is undertaking really extensive consultation, both with multicultural and Aboriginal and Torres Strait Islander community organisations, as well as subject matter specific discussions with sector experts on topics including employment, education, health, justice and sports.
Des services d'interprétation pour des langues autres que l'anglais sont également disponibles pour l'enquête. Les participants peuvent appeler le 03 90 07 29 90 entre 9h et 5h. Le Premier ministre Scott Morrison a dévoilé ce mardi une stratégie pour les véhicules électriques visant à mettre 1,7 million de voitures à zéro émission sur les routes d'ici 2030. Mais les groupes de voitures électriques critiquent la proposition Future Fuels comme étant inadéquate car les subventions et les incitations fiscales ne sont pas incluses dans l'accord. Le Conseil des véhicules électriques a déclaré qu'il attendait la politique depuis 2 ans et qu'il espérait que l'efficacité énergétique ou les rabais offriraient plus de choix. Scott Morrison déclare que le gouvernement offre aux Australiens des choix avec la réduction des coûts technologiques, rendant les options plus accessibles.
So our plans are all about supporting those choices, facilitating those choices, plugging the gaps where they need to be plugged to ensure that Australians can make the choices that they want to make.
L'ancien président américain Barack Obama exhorte les États-Unis à assumer leurs responsabilités et à mener la lutte contre le changement climatique. Il s'est adressé au sommet de l'ONU sur le changement à Glasgow, avertissant que le monde n'est pas au niveau qu'il doit être pour faire une différence. Barack Obama a critiqué l'administration Trump pour avoir stoppé les progrès, mais a exprimé sa confiance dans l'actuel président américain, Joe Biden. Il déclare que les États-Unis, l'Europe et d'autres pays doivent être des leaders mondiaux.
We also need China and India leading on this issue. We need Russia leading on this issue, just as we need Indonesia and South Africa and Brazil leading on this issue. We can't afford anybody on the sidelines.
Les États-Unis ont rouvert leurs frontières internationales aux voyageurs entièrement vaccinés de 33 pays, dont le Mexique et le Canada. La plupart des 33 pays précédemment interdits se trouvent en Europe, que l'Organisation mondiale de la santé a récemment déclaré l'épicentre de la pandémie. Les voyageurs entrant aux États-Unis devront fournir la preuve d'un récent test PCR de coronavirus négatif. Véronique Thierry est une résidente belge. Elle se rend à New York pour un mariage de sa famille.
Nous avions prévu, enfin, il y avait un mariage, le mariage de mon filleul.
My godson's wedding was planned a year ago, but due to the COVID-19 problems and all the restrictions, it was postponed for a year. And because there was a problem with the wedding venue too, we haven't seen him in 2 years. I am the godmother, but for his mother today, it is really a great relief. She is happy to hug her son again, who she has only seen via internet for the last 2 years.
Et maintenant, on écoute ce reportage de Léa Ogal pour Radio France Internationale.
J'ai lâché ma petite larme, j'ai envoyé immédiatement un message à Mac, mon copain, pour lui dire que j'allais pouvoir venir et je me suis ruée sur Google Flights pour regarder les vols que je pourrais prendre pour le rejoindre à Noël.
Chloé n'a pas vu son petit ami américain depuis maintenant 9 mois. Cette étudiante en sociologie a rencontré Maxwell il y a 2 ans lors d'un échange universitaire. Leurs retrouvailles sont pour bientôt et pour savourer l'instant, Chloé lui prépare une surprise.
Je lui ai dit que j'arrivais le 18 et en fait j'arrive le 17 et avec sa mère on a prévu une surprise. Elle nous a offert des nuits d'hôtel pour qu'on puisse être tous les deux dans notre petit cocon 2 jours avant d'être envahis par sa famille.
Par sa famille et leurs nombreux amis aussi qui vont venir fêter les retrouvailles. La relation à distance, le décalage horaire et les emplois du temps différents ne leur ont pas rendu la tâche facile, mais le couple a su résister.
Ce qui manque, c'est de rigoler ensemble, de partager les petits détails au quotidien et de se voir. Et maintenant, on a cet espoir et on sait qu'on va se voir dans pas longtemps. Et ça, ça nous fait tenir encore plus longtemps.
Pour cette reprise des vols commerciaux transatlantiques, toutes les plus grosses compagnies aériennes, américaines et européennes vont renforcer leurs capacités afin de répondre aux nombreuses demandes.
Et puis en Europe, en Allemagne, la 4e vague de Covid se déferle, comme l'explique Pascal Thibault. Pour RFI.
Le record inquiète les responsables alors que les 2/3 de la population est vaccinée, mais la campagne piétine en raison de la résistance d'une minorité hostile au vaccin. Les 3e doses de rappel pour les plus âgés sont administrées à un rythme insuffisant. Des foyers d'infection dans des EHPAD refont leur apparition. Le nombre de personnes en soins intensifs dans les hôpitaux, aujourd'hui 2500, pourrait doubler d'après des responsables. Des régions réagissent déjà, en Saxe, l'Inde particulièrement touchée. L'accès aux restaurants, bars, lieux culturels et de loisirs sera limité à partir d'aujourd'hui aux personnes vaccinées ou guéries. Ces restrictions qui pourraient s'étendre augmente la pression sur les non-vaccinés. Dans un talk-show hier soir, Frank Ulrich Montgomery, président de la Fédération mondiale des médecins, n'a pas mâché ses mots.
Nous avons actuellement une tyrannie des non-vaccinés qui prennent en otage les 2/3 de la population qui est les vaccinés et nous imposent de nouvelles restrictions. Des pays où 97% de la population est vaccinée, comme au Portugal, n'ont pas besoin de telles mesures devenues inutiles.
La future coalition, sociaux-démocrates, verts et libéraux, va déposer un projet de loi ce lundi pour réagir. On s'achemine vers un développement des mesures plus restrictives, mettant les non-vaccinés sous pression. Des tests systématiques dans les EHPAD pour le personnel et les visiteurs doivent éviter des infections. Des contrôles plus stricts au travail sont envisagés dans les entreprises. Les tests rapides, payants depuis le 11 octobre, pourraient redevenir gratuits. Un va-et-vient qui met en exergue la perplexité des responsables politiques.
Les évêques de France se sont engagés à fournir un fonds d'indemnisation pour les victimes de pédocriminalité dans l'Église après la publication il y a 1 mois d'un rapport choc sur les violences sexuelles commises par le clergé et les évêques au sein de l'Église catholique. Précision de Marie Casadebé pour RFI.
4 mesures vont prendre effet immédiatement, à commencer par la mise en place d'une instance nationale indépendante pour la reconnaissance et la réparation des victimes. Elle sera présidée par une juriste et sera chargée d'instruire les demandes. Vient donc ensuite forcément la question des indemnisations et de leur financement très attendu par les associations. Et bien là aussi, la conférence des évêques a décidé de suivre les recommandations de la CIAZ. Le fonds ouvert en septembre sera abondé par la vente de biens immobiliers des évêques et des diocèses. Pas question donc de piocher dans les contributions des fidèles. Et s'il le faut, l'Église souscrira à un emprunt. Autre mesure, la création de groupes de travail pour réfléchir à l'application des autres recommandations de la CIAZ. Ils seront pilotés par des laïcs et des victimes si elles l'acceptent. Le président de la Conférence des évêques reconnaît l'importance d'accepter le regard de la société sur une Église qui a trop longtemps géré les affaires en interne. Chaque évêque travaillera d'ailleurs avec le procureur de son territoire à la mise en place d'un protocole pour faire face aux signalements. Enfin, la Conférence des évêques fait appel à l'aide du pape et demande l'envoi d'une équipe de visiteurs chargée d'évaluer cette mission.
Et puis nous aurons d'autres nouvelles de France tout à l'heure après le journal des sports en compagnie d'Émile Matasso. La Pologne ferme sa frontière avec la Biélorussie. L'Union européenne accuse le gouvernement biélorusse d'encourager les migrants du Moyen-Orient et d'Afrique à entrer en Pologne et donc dans l'Union européenne. Précision de Daniel Vallot pour RFI.
Une tentative massive de franchir la frontière, voilà les termes utilisés par le gouvernement polonais pour dénoncer l'opération orchestrée, selon lui, par la Biélorussie. Selon Varsovie, plusieurs centaines de migrants se sont massés à la frontière ce lundi à l'instigation des autorités biélorusses dans l'espoir de la franchir malgré la clôture et les soldats déployés sur place. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent ces groupes de migrants qui font face aux soldats polonais. Les gardes-frontières biélorusses ont confirmé de leur côté qu'un grand nombre de ces réfugiés, pour la plupart issus de pays du Moyen-Orient, se déplacent le long de la frontière. La Pologne accuse les forces de sécurité biélorusses de contrôler strictement ces déplacements et d'utiliser ces migrants comme moyen de pression contre l'Union européenne et les sanctions prises à l'encontre d'Alexandre Loukachenko. Ce lundi, l'OTAN a dénoncé la tactique hybride du régime Loukachenko et condamné l'instrumentalisation de ces migrants par la Biélorussie. L'Alliance Atlantique assure qu'elle observe avec beaucoup d'attention la situation et son évolution sur les frontières de trois de ses pays membres, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 22 degrés, Adélaïde 22 également, Melbourne 20, Hobart 18, Canberra 23, Sydney 24, Brisbane 29, Darwin 34, Alice Springs 28, et oui, Alice Springs maximale de 28 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 9 novembre. Le Victoria a détecté plus de 1000 cas de coronavirus hier et 10 décès ont été enregistrés. Le gouvernement du Queensland a déclaré que les masques ne seraient plus nécessaires lorsque l'État aura atteint son objectif de vaccination à dose unique de 80%. Voilà, fin du journal et après une courte pause, on retrouve Christophe pour le journal des sports.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports et on commence avec, bien entendu, du tennis. Et après une année presque parfaite, je dis presque parfaite pour le roi Novak Djokovic, eh bien il conclut cette année 2021 avec une victoire à Paris dans le Masters 1000 de Paris-Bercy. Victoire en finale contre le russe Daniil Medvedev. Retour sur ce match avec également un grand vainqueur, le public parisien, Eric Mamrut.
Oui, le public s'est vraiment régalé. Lui qui faisait son retour à l'Arena de Bercy après le huis clos de l'an passé. Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont fourni un spectacle de toute beauté. Le russe prenant le meilleur départ, se montrant extrêmement solide, comme il l'avait été en finale du dernier US Open contre le même Djokovic. Mais le serbe a ensuite gommé ses petites erreurs pour se mettre au niveau de son adversaire. Résultat des échanges à couper le souffle, un immense bras de fer avec un Djokovic très agressif. Un travail de sabre qui a payé. Daniil Medvedev baissant peu à peu les armes pour s'incliner sur le score de 4-6, 6-3, 6-3. Une finale magnifique qu'a également apprécié le vainqueur de l'édition 2001, le français Sébastien Grosjean.
C'est ce qui s'est fait de mieux cette année. Hein. Ils se sont joués en Australie, ils se sont joués à l'US. C'était vraiment un niveau très élevé, l'intensité. Ça se voit qu'ils sont 1 et 2. On a vu Novak venir plus au filet qu'à New York.
Belle revanche sur le russe après sa sèche défaite en finale à New York. Hein. Daniil Medvedev, aujourd'hui forcément un petit peu amer après la perte de son titre ici à Bercy. On écoute Daniil Medvedev.
J'aime pas perdre, donc je peux pas dire que je suis heureux. Dès que tu perds un match, tu vas avoir toujours des sentiments où que tu pouvais faire un petit peu mieux. Mais en gros, j'ai tout donné. C'était un bon match de tennis contre un des meilleurs joueurs de l'histoire, où ça se sentait qu'il voulait vraiment gagner. Donc, bonne bataille. Là, je l'ai senti très fort et c'était pas facile pour moi. Il était plus fort que moi dans les moments clés. C'est ça que j'ai pas réussi à faire.
On avait quitté le Serbe en larmes après avoir vu le jeune Russe le priver brutalement. Une défaite en trois manches d'un historique grand chelem, c'est-à-dire les quatre tournois majeurs de l'année remportés à la suite. Ce coup qu'un homme n'a plus réalisé depuis l'Australien Rod Laver en 1969. Depuis, on n'avait plus revu Djokovic sur le court. Alors, allait-il revenir cette semaine encore touché, voire un petit peu démoralisé d'avoir raté un tel rendez-vous avec l'histoire, lui qui chasse les records de façon obsessionnelle? Eh bien, on a eu la réponse aujourd'hui. Novak Djokovic ne pense plus à cet échec.
Eric Mamrut, on écoute la réaction, et bien celle du vainqueur du tournoi, Novak Djokovic, en français, s'il vous plaît.
Je parle les sensations négatives de ça, parce qu'on a beaucoup de choses positives. J'ai gagné 3 Grand Chelem, et après je jouais finale à New York. Évidemment que c'est pas un scénario idéal. J'ai gagné pas à finale contre Medvedev, mais à la fin, j'ai senti un peu de relaxation après ça, parce que la pression était vraiment énorme et immense. Sensation que jamais je vivrai à mon carrière. Et cette année, j'ai réussi encore une fois de finir la saison comme numéro 1 mondial. Ça, c'était la plus grande ambition de cette période, la dernière période de cette saison. Donc, je suis très fier, très heureux de ça. Et après, on a beaucoup d'années, j'espère, beaucoup d'opportunités encore de gagner encore un grand chelem. Évidemment, la situation est un peu différente. Je ne suis pas jeune comme Medvedev et l'autre génération, mais je me sens bien. Je suis motivé, inspiré de progresser avec cette sport.
Novak Djokovic. Allez, un mot de football maintenant. La 13e journée de la Ligue 1 en France. Et les résultats, Lens bat 3 sur le score de 4-0. Lille et Angers font match nul 1-1. Le Paris Saint-Germain est allé battre Bordeaux à Bordeaux sur le score de 3-2. Match nul entre Marseille et Metz sur le score de 0-0. Lorient est battu chez eux dans le derby breton contre Brest sur le score de 2-1. Saint-Etienne qui bat Clermont sur le score de 3-2. Match nul entre Reims et Monaco 0-0. Nantes et Strasbourg font match nul également 2-2. Montpellier va battre Nice sur la Côte d'Azur sur le score de 1-0. Et victoire de Rennes face à Lyon. Alors là, c'est important. Victoire de Rennes donc 4-1. On écoute Amari Traoré, le capitaine rennais.
On a fait un gros match. On a fait une bonne entame. On les a bien mis sous pression. On jouait vers l'avant. On aurait dû mener 3 ou 4 en première mi-temps. On a continué à avancer, à les presser. On a été récompensé. On a continué la même chose en deuxième mi-temps. Donc je pense que cette victoire, elle est méritée. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas se prendre pour d'autres. On va continuer à travailler dans la sérénité, tout en restant humble. Je pense que c'est ça qui fait notre force et il faut garder ça sur la saison.
Voilà donc pour les résultats de la Ligue 1. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête et largement en tête. Hein, 10 points d'avance avec 34 points. Je vous le disais, deuxième Lens avec 24 points. Troisième Nice, 23 points. Marseille, quatrième, 23 points également. Et Rennes est cinquième avec 22 points en bas de classement. Bordeaux est 18e avec 12 points. Saint-Etienne est 19e avec 9 points. Et Metz ferme la marche avec 8 points. Point. On parle de rugby maintenant et une victoire, c'est important, victoire compliquée des Bleus face aux Argentins, mais victoire quand même, Cédric De Oliveira.
On l'attendait, flamboyant, triomphant, magnifique, mais pour ses retrouvailles avec le public. Le 15 tricolore a surtout été brouillon sur la pelouse du Stade de France. Malgré tout, Fabien Galthié se contente de ce succès étriqué face aux Argentins. Le sélectionneur a souvent pesté contre les fins de match ratées de ses joueurs, alors cette fois, il s'avoue.
Oui, une victoire. À la fin, on gagne, et ça c'est important. C'est la mission, ça a été fait, et bien fait. On a été solide parce que c'était un match pour une reprise, hein, quand t'as pas joué ensemble depuis 8 mois et demi. C'était un match qui s'est avéré très difficile à gagner, qui a été gagné.
Difficile parce que les Bleus sont tombés sur des Pumas accrocheurs comme attendu, parfois à la limite de la régulière. Avec Romain Tamac en premier centre et Mathieu Jalibert à l'ouverture, titularisés ensemble pour la première fois, Antoine Dupont à la main, les Bleus avaient pourtant une équipe séduisante et pleine de promesses. Mais les Argentins ont encore une fois montré leur habileté à faire déjouer, comme l'explique l'ailier Gabin Villière.
C'est cette agressivité des Argentins, ça a un peu empêché de développer notre jeu et de pouvoir être un peu plus fluide derrière, je pense. C'est vraiment cette équipe d'Argentine qui nous a posé des problèmes. On a su malgré tout rectifier le tir en seconde période en trouvant pas mal d'opportunités et en scorant surtout.
Effectivement, la seconde période a été plus convaincante. Après avoir compté exclusivement sur le talent et l'adresse de Melvin Jaminet devant les poteaux, les Bleus ont fini par prendre le dessus physiquement, sans doute grâce à l'apport des finisseurs. Le deuxième ligne Thibaut Flamand et le talonneur Peato Movaca ont ainsi aplati dans l'embute après quelques mouvements d'envergure. Le 15 de France aurait même pu inscrire un troisième essai d'Antoine Dupont, mais la vidéo l'a annulé, sans conséquence pour le capitaine.
Évidemment qu'il y a de la frustration quand une décision arbitrale est contre nous, mais voilà, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter et surtout que ça n'avait pas d'incident sur la suite du match, donc c'est là qu'il faut être froid dans la tête, même si ça nous agace.
Malgré quelques faits de jeu contraires et un essai encaissé en fin de match, les Bleus ne se sont pas affolés. C'est sans doute l'une des satisfactions de cette rencontre. Il faudra encore patienter pour associer la manière au résultat. Mais cette équipe progresse. Le sélectionneur argentin Mario Ledesma en est le premier convaincu.
Cette génération peut être championne du monde. C'est une super génération, que ce soit devant ou derrière. Et pour moi, ça fait partie. La France aujourd'hui fait partie des trois meilleures équipes du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Cédric De Oliveira, allez, un dernier mot de sport avec le marathon de New York, le mythique marathon de New York qui avait lieu ce week-end. Retour sur cette épreuve avec Alexis Guilleux.
3000 coureurs au lieu des 50 000 habituels se sont élancés de Staten Island, mais la foule était bien présente dans les 5 arrondissements de New York. 2h, 8 minutes et 22 secondes après le départ, c'est le Kenyan Albert Korir qui s'est imposé en solitaire dans Central Park. Une victoire après sa deuxième place en 2019. Mohamed El Arabi a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position 45 secondes plus tard. Le Marocain améliore son record personnel.
Ça signifie pour moi un grand exploit. Au 25e kilomètre, je me sens à l'aise. C'est mon jour et il ne faut pas lâcher l'occasion.
L'Italien Eyot Faniel complète le podium. Sixième place pour la légende Kenenisa Bekele. Chez les femmes, triplé africain. L'Éthiopienne Yeshane termine troisième derrière deux Kenyanes, Viola Cheptou et Peres Jepchirchir. Les deux femmes qui se sont soutenues dans la deuxième partie de la course. Viola Cheptou.
Je ne sais pas ce qui s'est passé au 27e kilomètre. À partir de là, je n'ai pas arrêté de parler à Paris. Je lui demandais, est-ce que tu peux m'aider au moins jusqu'au 35e kilomètre? Et quand on est arrivé dans Central Park, elle m'a dit de m'accrocher encore un peu pour que je termine deuxième ou troisième.
Peres Jepchirchir a, elle, accéléré dans les derniers hectomètres pour s'offrir un nouveau titre après l'or olympique à Tokyo. Médaillée de bronze au Japon, l'américaine Molly Seidel termine quatrième et repart émerveillée par le soutien du public new-yorkais.
C'était incroyable, je n'ai jamais rien vécu de tel. De voir tous ces gens dehors, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais.
New York n'attend plus que les touristes et coureurs amateurs européens qui pourront de nouveau entrer aux États-Unis et pourquoi pas s'entraîner dans Central Park.
Alexis Guilleux pour RFI, voilà, c'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque mardi, place à l'actualité française maintenant. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, tout d'abord, l'épidémie de Covid-19 qui regagne du terrain.
Oui, c'est net. Hein. Depuis 15 jours maintenant, tous les indicateurs sont à la hausse, que ce soit le nombre de personnes testées positives chaque jour sur le territoire français, plusieurs milliers, que ce soit le nombre de personnes admises en réanimation, 430 admissions en soins critiques de plus sur les 7 derniers jours. Et ce lundi, 8 novembre, 55 décès dus au coronavirus qui ont été enregistrés. Dans la sémantique, alors on ne parle pas encore d'une nouvelle vague, mais les prémices sont là et il suffit de regarder chez nos voisins européens pour être inquiet. L'Allemagne, notamment, où le nombre de nouveaux cas quotidiens explose, hein, quelques 40 000 nouveaux cas par jour. L'Allemagne n'a pas connu ça depuis le début de l'épidémie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a d'ailleurs mis en garde les pays européens dernièrement, car l'épicentre de l'épidémie Covid-19 en ce moment, cet épicentre, certes, il ne cesse de se déplacer depuis 2 ans d'un continent à l'autre, mais en ce moment, il est bel et bien en Europe. Alors, dans les faits, en France, cela ne se traduit pas encore par de nouvelles restrictions, type limitation de déplacement d'une région à une autre, voire confinement ou couvre-feu, mais la vigilance reste de mise. Et si cette dynamique de circulation du virus venait à se confirmer dans les prochaines semaines, eh bien, un tour de vis serait probablement indispensable, même si la France peut s'appuyer sur un taux de vaccination très élevé et que cela protège, hein, même si le virus, on le voit, se remet à circuler activement et qu'il est véhiculé en partie par des personnes vaccinées, hein, mais qui sont asymptomatiques ou alors avec des formes très légères, eh bien, grâce au vaccin, beaucoup moins de cas graves qu'avant que ne soit lancée la campagne de vaccination sont enregistrés.
Alors, dans les écoles, en tout cas, on assiste à un retour en arrière.
Oui, dans les établissements scolaires, il y avait eu un assouplissement des mesures au mois d'octobre, un mois après la rentrée de septembre, après les vacances d'été. Le port du masque était encore obligatoire en septembre, partout dans les établissements, pendant les cours. Mais en octobre, le gouvernement avait lâché du lest dans les départements où le virus circulait le moins, en deçà d'un certain seuil. Les élèves ont pu de nouveau aller à l'école, collège, lycée, sans masque. C'était le cas avant les vacances de la Toussaint dans certains départements, plusieurs dizaines. Mais là encore, les cours qui reprennent après 15 jours de vacances, les vacances de Toussaint, la situation s'est dégradée. Elle a été réévaluée et dans une quarantaine de départements, on est repassé du vert à l'orange. Autrement dit, les élèves doivent de nouveau porter le masque en cours. Alors dans certains départements, en Ile-de-France hein, notamment, les élèves n'ont jamais quitté le masque hein, depuis de nombreux mois maintenant. Mais là où ça a été le cas, quelques semaines, c'est une situation assez difficile à accepter pour les enfants, les enseignants, les parents. Cette impression de revenir en arrière une nouvelle fois, alors que l'on pouvait penser début octobre eh bien que le virus était contrôlé. À bas bruit, il est de nouveau en train de gagner du terrain. Une circulation facilitée par la baisse des températures. Hein. Nous sommes au cœur de l'automne, début novembre, bientôt l'hiver. Des conditions qui, on le sait, facilitent la vitalité et la circulation du Covid-19.
Alors la vie continue néanmoins, c'est sûr, et pour preuve, les prix littéraires de 2021 qui ont été décernés, ils sont décernés en ce moment.
C'est la saison des prix littéraires en France, effectivement, octobre-novembre, ce qui permet ensuite aux éditeurs, aux libraires de promouvoir les livres distingués en vue des fêtes de fin d'année. Alors on citera le prix Renaudot qui a été décerné à Amélie Nothomb, qui est belge, Amélie Nothomb, et son célèbre chapeau récompensé pour son ouvrage « Premier sang » où elle rend hommage à son père récemment disparu. Elle se met dans la position de son père dans le style d'écriture qu'elle adopte pour nous raconter sa vie de diplomate à lui. Amélie Nothomb hein, qui a écrit une trentaine de romans, de nombreux best-sellers. Elle a reçu bien sûr nombre de distinctions, mais c'est la première fois qu'elle reçoit l'un des plus prestigieux prix littéraire, en l'occurrence le prix Renaudot. Le prix Goncourt lui a été décerné par le jury à un auteur sénégalais, Mohamed Bungar Sarr, 31 ans, plus jeune lauréat du prix Goncourt depuis 1976. Il est né à Dakar, au Sénégal. Il est très jeune, mais était déjà connu des lecteurs. Là, il signe un ouvrage, La plus secrète mémoire des hommes, un ouvrage et un récit qui nous emmène d'un continent à l'autre. Mohamed Bougarsar nous emmène du Sénégal à l'Argentine, à la France, aux Pays-Bas. Et il passe d'un genre littéraire à l'autre. C'est ce qui fait la force de cet ouvrage, la plus secrète mémoire des hommes. Il emprunte tout à la fois à la comédie, au drame, au roman policier. Et même si le jury récompense avant tout une œuvre et non un auteur, eh bien attribuer le prix Goncourt à un auteur sénégalais, c'est un formidable signe d'ouverture sur la francophonie et tous ces auteurs en langue française dont les racines ne sont pas forcément dans l'Hexagone, à Paris ou à Saint-Germain-des-Prés. On peut s'arrêter aussi sur le prix Fémina, décerné à Clara Dupont-Monod pour son livre « S'adapter ». Un ouvrage qui se fond dans une famille où tous les repères sont chamboulés par l'arrivée d'un frère handicapé. Après, sur les prix littéraires, on pourra toujours s'interroger sur la valeur intrinsèque d'un prix, hein, quand en coulisses, on le sait, les maisons d'édition font du lobbying effréné pour que leur poulain soit récompensé plutôt qu'un autre auteur. Il y a régulièrement des scandales, hein, qui éclatent autour de l'attribution de ces prix littéraires, car avoir un livre en librairie avec le bandeau prix Renaudot ou prix Goncourt, c'est l'assurance tout risque de voir les ventes s'envoler. Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, est bien placé pour en parler. Le grand public ne le connaissait pas plus que ça, sans lui faire injure. Hervé Le Tellier, prix Goncourt pour son livre « L'anomalie ». Son ouvrage a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, le monde de l'édition le reconnaît. Le processus s'est quelque peu inversé, même si ce n'est pas toujours le cas. On le voit avec Amélie Nothomb. Mais avant, on récompensait avant tout des auteurs renommés qui avaient déjà séduit des milliers de lecteurs au fil des années. Aujourd'hui, eh bien, les jurés font leur choix. Ils consacrent dans le microcosme littéraire, certes, des livres de grande, très grande qualité, mais pour l'auteur, c'est souvent après la récompense qu'arrive la reconnaissance du grand public et la notoriété.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu française pour nous cette semaine.
Merci, à bientôt.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile. Gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Madame Sophie Galaise, qui est la Managing Director du Melbourne Symphony Orchestra. Bonjour et bienvenue sur SBS French.
Oui, bonjour Jean-Noël Ducasse, merci de m'avoir invité.
Et vous étiez l'invité de nos ondes il n'y a pas si longtemps, mais pour les gens qui nous écoutent, rappelez-nous brièvement votre parcours comme Managing Director. Vous êtes en Australie depuis 2016 et auparavant, vous étiez, je pense, au Canada?
Oui, mais en fait, ça fait 8 ans que je suis en Australie. Je suis arrivée en 2013 à la direction de l'orchestre. J'étais présidente et directrice générale de l'Orchestre symphonique du Queensland, et ce qu'ils appellent ici CEO. Et puis, après 3 belles années à Brisbane, on m'a invité à prendre la direction de l'Orchestre symphonique de Melbourne, où je suis depuis 2016. Et alors, ça a été, je dirais, 4 belles années ou 4 belles saisons jusqu'à ce que la pandémie nous frappe ici à Melbourne. Et comme tout le monde le sait, on a eu le plus long confinement au monde. C'est très... je le dis en riant, là, maintenant, mais disons que ça était une période très difficile pour le monde des arts et pour l'Orchestre symphonique de Melbourne. Alors, on s'est trouvé dans une situation où, soudainement, on n'était plus en mesure de produire de concerts, de jouer en public devant le public qu'on aime tant. Et ça a été financièrement très, très, très difficile. Mais je suis très heureuse de dire que presque 2 ans plus tard, on est de retour, on a survécu et nous avons été en mesure de garder tous nos employés à l'emploi. Alors, pour nous, ça a été un tour de force que d'arriver à faire ça, mais on en est très heureux. Et maintenant, on est très heureux de cet honneur qui nous est... Enfin, je trouve que c'est un honneur quand on est en nomination pour un prix comme celui-là, qui est un prix international.
Oui, vous êtes finaliste des International Music Cities Awards pour 2011. Quelle a été votre réaction quand vous avez reçu la nouvelle?
Surprise et joie. Alors, c'est un prix pour notre travail au fil des ans. En fait, c'est un prix qui est attribué en 2021, cette année. Le gala est la semaine prochaine, je crois. Donc, à ce moment-ci, on est en nomination avec 3 autres finalistes de partout à travers le monde. Et c'est un prix qui souligne l'apport d'organisations comme l'Orchestre symphonique de Melbourne à la vie dans une ville, je cherche mes mots là, mais disons...
Vous pouvez le dire en anglais.
À faire en sorte qu'on fait bénéficier la communauté et on crée un environnement qui est plus agréable. Alors, c'est le cas pour l'Orchestre symphonique de Melbourne en étant en nomination pour les concerts gratuits qu'on présente dans le plus grand amphithéâtre extérieur, le Sydney Meyer Music Bowl. Et nous présentons ces concerts à chaque année depuis les années 30. 1929, je crois qu'on a commencé à faire ça. Et à l'époque, l'amphithéâtre n'avait pas été bâti. Alors, c'est 100 000 personnes qui venaient à chaque année pique-niquer avec leur famille, les enfants, et entendre la musique. Alors, nous avons maintenu la tradition d'année en année. Et je suis très fière du fait qu'on est toujours aussi, comme ils disent en anglais, « relevant », qu'on fait toujours partie... du tissu de notre société et qu'on apporte toujours quelque chose d'extrêmement valable et positif et joyeux. Alors, chaque année, on présente des concerts de musique où le niveau, la qualité artistique est très élevée. L'Orchestre symphonique de Melbourne est un des grands orchestres à travers le monde. On est considéré parmi les 20 grands orchestres. Il y a des milliers d'orchestres à travers le monde, alors c'est un honneur. Et donc, la qualité est toujours importante pour nous, mais l'accessibilité est aussi extrêmement importante. Et nous avons à chaque année, depuis des décennies, fait en sorte de présenter une variété d'artistes australiens et d'œuvres australiennes et classiques. Ça va sans dire. Alors, vous pouvez avoir du Beethoven et
du Handel.
Un artiste australien, un grand jazzman, ou en tout cas, c'est extrêmement varié à chaque concert. Et pour nous, c'est une grande fierté que de présenter ces concerts et d'essayer d'être le reflet de notre société, de refléter la diversité que l'on retrouve ici à Melbourne. Les communautés culturelles sont nombreuses. Alors, essayer de refléter un peu ce qui se passe dans notre société est important. Et c'est toujours aussi apprécié. Alors, j'avoue que j'ai œuvré toute ma vie dans le domaine de la musique classique. Et c'est en arrivant à Melbourne que j'ai vu pour la première fois des choses que je n'avais jamais vues dans mon domaine. On voit ça plutôt en musique pop, où des gens essaient de franchir une clôture pour être avec les spectateurs. Alors, la capacité maximale maintenant, c'est 10 000 personnes qui peuvent prendre place à l'amphithéâtre. C'est clôturé. Et dans les années... bon, pas de la pandémie, mais pré-pandémie, on avait des gens qui essayaient de franchir la clôture pour venir grossir les nombres et on a dû refuser 2000, 2500 personnes. Alors, ce sont des concerts qui sont extrêmement populaires, qui sont très attendus. Les gens arrivent en après-midi avec leur pique-nique et vont pique-niquer avec la famille. Il y a de nombreux enfants et vous avez donc un concert sous les étoiles en soirée. Et vous pouvez vous imaginer, réchauffement climatique oblige, on a eu dans les dernières années des soirées très chaudes ou bien très froides. Alors, on a vécu différents scénarios. Et évidemment, avec en 2020, on a été en mesure, parce que ces concerts-là sont présentés en février, de présenter nos concerts tels qu'à l'habitude. Et ça a été aussi populaire qu'à l'habitude. En 2021, on a pu présenter quelques-uns, mais on a eu un court lockdown en février 2021. Alors, on a dû, confinement oblige, on a dû couper court. Mais enfin, donc on est en nomination pour ce travail qu'on a fait des décennies durant et je suis très fière du fait que on essaie d'innover à chaque année et que c'est remarqué et que ça contribue au développement d'une cité. On est souvent mentionné dans les promotions de la ville de Melbourne. Alors voilà, c'est un beau prix, je crois. Alors, on va se croiser les doigts, on ne sait pas. Là. Je suis convaincue que les autres finalistes sont aussi, ont des initiatives aussi extraordinaires et qui vraiment embellissent la vie des gens dans ces différentes villes. Mais d'être en nomination, c'est déjà un extraordinaire honneur.
Et Mme Galez, on espère que les lockdowns ont terminé pour de bon. En Australie, on croise les doigts, et le MSO a été, je dirais, à l'avant-garde en ce qui concerne la campagne de vaccination contre le coronavirus, avec cette campagne Performance of a Lifetime, et pour célébrer tout ça, il y aura une série de concerts au mois de décembre.
Oui, alors on est très contents, au mois de juillet cette année, enfin fin juin, début juillet, quelqu'un dans notre équipe a souligné nous a proposé de rallier la communauté artistique et de créer une vidéo que, comme vous l'avez si bien dit, qu'on a intitulé Performance of a Lifetime, qui permettait de faire l'analogie avec la comparaison avec quand on donne une performance, vous savez, là, on se rend au théâtre et il y a différents rituels qui viennent avec la performance, avec la représentation. Et évidemment, à la fin, on vous applaudit en général. Alors, sur ce concept d'une performance of a lifetime, on a demandé au public de faire leur part, d'aller se faire vacciner et donc de nous permettre à nous de retourner en scène et de se retrouver. Et on a eu une extraordinaire réponse de tous les artistes à qui on a demandé de participer. Et on voulait démontrer la variété, la diversité des talents à Melbourne. Alors, on a des gens de théâtre, des gens du ballet, du cirque, une drag queen. c'est vraiment extrêmement varié et évidemment de l'orchestre, des artistes des Premières Nations, bon, c'est très varié. Et c'est un beau vidéo qui a été vu maintenant par plus de 2 millions de personnes et qui tourne toujours. Alors, on croit qu'on a participé un peu. Et là, à Noël, à la fin de la saison 2021, Le Meyer Bowl va être ouvert pour une saison d'été un peu à l'avance. En temps normal, les concerts ou les représentations sont plus en janvier-février. Alors, on a levé notre main aussitôt qu'on a entendu parler de la possibilité de donner des concerts à la fin de l'année. Et nous serons pour 5 soirs dans le Meyer Bowl avec un programme classique. Avec tous les concerts qu'on a dû annuler cette année, c'est plus de 80 concerts, 80 programmes. Alors, on a choisi des extraits les plus populaires de ce que les gens auront manqué. On va représenter ça sous les étoiles. Et l'autre concept qui nous a allumé, qui nous a vraiment intéressé, c'est de reprendre le dialogue avec les artistes qui ont fait partie de ce vidéo Performance of a Lifetime et de les présenter sur scène. Alors, nous aurons des artistes du musical, de entertainment industry, comme Rhonda Birchmore, Miao Miao, des acteurs, Virginia Gay, on a des acteurs chanteurs du Moulin Rouge, de Frozen, la comédie musicale, de Harry Potter. C'est vraiment un vaste pot-pourri d'artistes. Et évidemment, comme c'est le cas dans notre vidéo, on a une trame, c'est pas seulement des petits numéros d'artistes, mais il y a vraiment tout un dialogue qui va, on l'espère, s'établir avec notre public. Et je crois que ça va être extraordinaire, j'ai vraiment hâte.
Et voilà, donc Sophie Galez qui nous présentait donc la reprise des concerts du Melbourne Symphony Orchestra. Vous pouvez écouter cette interview sur notre site sbs.com.au /French. sbs.com.au/French. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Belle journée et je vous laisse avec Pauline Croze. Je suis un renard. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.